Théologie fondamentale, Père Philippe, 3 mai 1984, Saint-Joseph.
Nous sommes arrivés donc à la question 173 sur le traité de la prophétie, le mode de connaissance prophétique. Les prophètes voient-ils l'essence même de Dieu? On a vu que, évidemment, que la prophétie n'est pas la vision béatifique, et que la prophétie est en dehors de la vision béatifique. Deuxièmement, la révélation prophétique se fait-elle par influence de certaines images ou idées ou seulement par celle d'une lumière? Un article très intéressant, celui-là, si vous vous souvenez. De tout point de vue, parce que c'est une analyse extrêmement intéressante que saint Thomas fait de l'acte de connaissance. Et alors, on voit bien ce que saint Thomas nous montre, qu'il y a nécessairement une nouvelle lumière. C'est le propre de la prophétie, c'est de donner une nouvelle lumière. Et par le fait même, tout est changé. J'ai presque envie de relire cet article avec vous. On l'avait déjà vu, simplement pour le relire. Vous remettre en acte devant cette chose qui est belle, très belle. Puis on verra tout de suite après l'article 3, qui est beaucoup plus facile. Mais l'article 2 est très important. D'après saint Augustin, la connaissance prophétique a surtout pour siège l'esprit. Cognitio prophetica, maxime ad mentem pertinent. C'est pas dans le cœur. On n'est pas prophète par le cœur. On est prophète par l'intelligence. Et c'est pour ça que saint Thomas dit que la seule condition nécessaire pour être un bon prophète, c'est d'avoir une intelligence bonne. Vous voyez, la philosophie prépare la prophétie. On devrait dire ça aux charismatiques. Parce qu'il faut avoir une intelligence bonne. C'est ça qui prépare et qui permet d'être prophète. Or, au sujet de la connaissance de l'esprit humain, il y a deux choses à considérer. Le mode de réception ou de représentation des réalités et le jugement sur les réalités représentées. Ah, vous voyez bien, appréhension, jugement. C'est dit d'une façon assez particulière ici. Circa cognitione motem humane mentis due opportet considerare. Chilichet acceptionem, seu representationem rerum. Vous voyez comme c'est délicat. Je vous ai dit que la représentation était d'imagination. Ça, c'est le langage de saint Thomas. Ça, c'est le langage du théologien. Le théologien. Il prend ses libertés que le philosophe n'a pas. Et le philosophe doit être très précis. Je ne crois pas qu'on puisse dire que l'appréhension est une représentation. Mais on voit très bien, acceptionem, c'est l'attitude, c'est l'upolepsis d'Aristote. L'upolepsis d'Aristote, l'attitude réceptive. L'appréhension, nous le verrons, a une attitude réceptive. C'est la réceptivité de l'intelligence. Je suis en attitude d'accueil. Ça, c'est celui qui appréhende. Tandis que le jugement n'est pas du tout dans une attitude d'accueil. Pas du tout. Lui qui juge, il discerne, il sait. Tandis qu'il y a une attitude d'accueil. Au fond, c'est ce que saint Thomas pourrait dire. Il y a deux attitudes de l'intelligence. Une attitude d'accueil, qui est fondamentale et première, et l'attitude du jugement sur les réalités représentées. Les réalités sont représentées à l'esprit humain par des idées ou species. Normalement, il est nécessaire que ces idées ou species passent par les sens, puis par l'imagination et aboutissent à l'intellect possible. Celui-ci est modifié par les fantasmes qu'éclaire l'intellect agent. Tout y est, hein? Toute la grosse artillerie. La grosse artillerie, c'est l'intellect agent, il ne faut pas l'oublier. On n'y a pas encore touché beaucoup, c'est la grosse artillerie. Très foncé, vous n'avez aucune expérience de l'intellect agent. Et il faut voir combien saint Thomas y tient. Regardez dans le contrat Gentilès, un jour où vous avez un tout petit peu de temps, ça peut arriver, n'est-ce pas? Un jour, vous avez un tout petit peu de temps, regardez dans le Contrat Gentilesse la manière dont saint Thomas défend l'intellect à Jean. Ça vaut la peine, même si on ne lit pas tout, de voir qu'il y a beaucoup de pages, n'est-ce pas? Et que saint Thomas défend l'intellect à Jean comme la pièce fondamentale de toute notre vie intellectuelle. Très, très curieux, ça. L'invention d'Aristote. Aristote a posé l'intellect à Jean, pas Platon. Après, on a tourné autour de l'intellect à Jean, n'est-ce pas, pour savoir ce que c'était exactement, mais Aristote l'a posé. Il a posé l'intellect, le nous poétique, poétikos, le nous poétikos, le nous actif. Il dit os phos. Cet intellect à Jean, il est comme une lumière. C'est très beau. Comme une lumière intérieure, vous voyez, qui donne à l'esprit sa possibilité de vivre. C'est ça, c'est os, phos, comme une lumière. Donc, ici, saint Thomas ne fait que simplement rappeler. Or, l'imagination ne fait que recevoir les formes des choses sensibles telles qu'elles viennent des sens. Mais elle subit aussi diverses transformations, soit par suite de modifications corporelles, comme il arrive dans le sommeil ou la folie, soit par suite d'interventions de la raison qui dispose les fantasmes en vue de ce qu'il faut comprendre. Quand, en effet, on change l'ordre des mêmes lettres d'un mot, le sens diffère. De même aussi, si l'on dispose de diverses manières les fantasmes, il résulte dans l'intelligence des idées intelligibles différentes. C'est très très curieux, au point de vue psychologique, c'est très intéressant. Tu vois, la comparaison, l'analogie que saint Thomas donne entre le point de vue des mots qui diffèrent, en fait, quand on change l'ordre des mêmes lettres d'un mot. C'est sûr, hein? Ça change complètement. Bien, la même chose pour les images. De même aussi, si l'on dispose de diverses manières les fantasmes, il résulte dans l'intelligence des idées intelligibles différentes. Quant au jugement de l'esprit humain sur ces représentations, il dépend de la force de la lumière intellectuelle qui les éclaire. Or, par le don de prophétie, vous voyez, saint Thomas rappelle d'abord toute la structure de la vie de l'intelligence. C'est un petit résumé extrêmement dense. Si, comment voulez-vous comprendre ça si vous êtes cartésien? Difficile à comprendre. Hein, vous êtes un peu habitué. C'est un petit résumé extrêmement dense. Hein, les sens, l'imagination, l'intellect agent, la réceptivité de l'intelligence, le jugement. Or, par le don de prophétie, l'esprit humain est surélevé au-dessus de ses facultés naturelles. Quant aux deux éléments qu'on vient de dire, d'abord quant au jugement, par l'influx d'une lumière intellectuelle. Ensuite, quant à la représentation des réalités qui se fait par les images ou les idées. Sous ce second rapport, seulement, on peut comparer l'enseignement humain à la révélation prophétique. Le maître, en effet, présente à son disciple des réalités au moyen du langage, quand il ne peut l'illuminer l'illuminer intérieurement comme Dieu le fait. C'est ce que vous avez dit, ce vieux professeur qui disait « Je peux bien vous présenter l'intelligible, mais je ne peux pas vous donner l'intelligence. Donc, je n'en peux rien si vous ne comprenez rien. C'est votre intelligence qui est incapable de recevoir. Je vous présente quelque chose d'intelligible. Je ne peux pas faire autre chose. On va faire autre chose que vous présenter l'intelligible. Autant que possible, dans un ordre qui soit le plus proche de ce que vous pouvez comprendre. Et l'art pédagogique consiste à donner cet ordre. Or, dans la prophétie, c'est la surélévation du jugement qui est la plus importante, car c'est dans le jugement que s'achève la connaissance. La perfection de la connaissance, c'est le jugement. Voilà pourquoi, si quelqu'un est gratifié par Dieu de la vision de certaines réalités à l'aide de similitudes imaginatives, tel le Pharaon et Nabucodonosor, ou encore à l'aide de similitudes corporelles comme Balthazar, il ne faut pas le considérer comme un prophète, à moins que son esprit n'ait reçu une lumière qui le rende capable de porter un jugement. Cette vision sans jugement est une espèce imparfaite dans l'ordre de la prophétie. Ainsi, certains l'appellent-ils un succès d'année de la prophétie, comme l'est la divination des songes. Par contre, on désignera comme prophète celui dont l'intelligence seule aura été éclairée pour juger même ce que d'autres ont vu imaginativement. Ainsi Joseph qui expliqua le songe du Pharaon. Joseph n'a pas eu de vision, il n'a pas eu de songe, mais il l'a expliqué. Et alors il est prophète. Vous voyez, comme l'intelligence est importante dans la prophétie. Ce n'est pas les représentations. Un voyant qui voit des choses et qui entend des choses et qui ne comprend rien du tout, qui les répète matériellement, il est matériellement prophète. Celui qui en donne l'herméneutique, il est prophète, parce qu'il en donne l'herméneutique, il en donne l'explication. Très très beau comme manière de voir ce qu'est le prophète. Toutefois, comme le remarque saint Augustin, celui-là surtout mérite le nom de prophète, qui excelle en l'un ou l'autre genre, voire en esprit les similitudes désignant les réalités corporelles, et en même temps les comprendre par la vivacité de son esprit. Voici de quelle manière les réalités sont manifestées par Dieu à l'esprit du prophète. Tantôt par l'intermédiaire des sens extérieurs, au moyen de formes sensibles. Par exemple, Daniel vit des inscriptions sur la muraille. Tantôt, c'est au moyen de formes imaginatives, soit que Dieu les imprime directement, sans qu'elles soient reçues par les sens. Tel serait le cas d'un aveugle muet, dans l'imagination duquel s'imprimeraient des images de couleurs, soit aussi que Dieu arrange de façon spéciale les formes reçues par les sens. Tel le cas de Jérémie, qui vit bouillir une chaudière venant de septentrion. Tantôt enfin, c'est la montagne d'or, il y a pas de choses qui vient s'accumuler comme ça, là. Les dieux font qu'il y a quelque chose de nouveau. Tantôt enfin, c'est au moyen d'idées imprimées dans l'esprit du prophète, c'est le cas de ceux qui reçoivent la science ou la sagesse infuse, comme Salomon ou les apôtres. Quant à la lumière intelligible, elle est donnée par Dieu à l'esprit humain, soit pour juger ce qui a été vu par d'autres, on l'a remarqué pour Joseph, il en est de même pour des apôtres auxquels le Seigneur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est là l'objet de l'interprétation des discours. C'est là l'objet de l'interprétation des discours, soit pour juger selon la vérité divine ce que l'homme saisit avec ses facultés naturelles, soit aussi pour juger d'une manière vraie et efficace ce qui est à faire selon cette parole d'Isaïe, l'Esprit du Seigneur a été son guide. Il ressort donc de cet exposé que la révélation prophétique se fait quelquefois par le seul influx de la lumière. D'autres fois, par l'impression de nouvelles images ou idées, ou encore par des combinaisons spéciales d'images ou d'idées antérieurement acquises. Donc, vous voyez bien, c'est assez simple à comprendre, ça. C'est que ce qui fait formellement le prophète, c'est la lumière nouvelle donnée par Dieu, qui permet de saisir la signification profonde de certaines images, de certaines paroles. C'est ça le point de vue premier prophétique. Sans s'accompagner du tout d'images nouvelles, d'idées nouvelles, et même qui peuvent venir d'un autre. J'ai eu un songe cette nuit, dites-moi ce que ça veut dire. Bon, si vous êtes prophète, vous en donnerez l'interprétation. Et ce songe subitement, ça se trouvera qu'il y a une signification extraordinaire. Vous êtes prophète dans l'herméneutique. Vous voyez pourquoi on aime tellement l'herméneutique aujourd'hui. Hein, vous êtes prophète dans l'herméneutique. Interpréter, c'est un acte prophétique qui exige une lumière divine. Alors aujourd'hui, les théologiens interprètent sans lumière divine. Les choses par leur nom. C'est dit dans le livre de Daniel, ça. Le livre de Daniel est un très grand livre au point de vue prophétique. Il faut le relire de temps en temps, le livre de Daniel. Et bien, dans le livre de Daniel, il est dit que seul celui qui a reçu de Dieu un don peut interpréter. Il peut interpréter l'écriture. C'est trop grave. Ou alors, il y a la lumière. Et il y a des images nouvelles, des représentations nouvelles. Article 3. Les visions prophétiques, la vision prophétique se fait-elle toujours avec abstraction des sens? Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a toujours suspension des sens dans toute interprétation, dans tout aspect prophétique? Alors, saint Paul écrit aux Corinthiens, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Spiritus prophetarum, prophétis subjecti sunt. Or, cela n'aurait pas lieu si le prophète n'était pas maître de soi-même, abstrait qu'il serait de l'exercice de ses sens. La vision prophétique ne s'accompagne donc pas de l'aliénation des sens. Alors, la révélation prophétique, on l'a vu à l'article précédent, se fait de quatre manières. Par l'influx d'une lumière intelligible, par l'octroi d'idées nouvelles, par une impression, une nouvelle combinaison de formes imaginatives, par la représentation de formes sensibles. Quatre manières d'être prophète. Or, il est évident qu'il n'y a pas abstraction des sens lorsqu'une réalité est présentée à l'esprit du prophète selon des formes sensibles, soit que Dieu les forme spécialement dans ce but, tel le buisson montré à Moïse ou l'écriture à Daniel, soit même que d'autres causes les produisent, mais avec un dessein voulu par la providence divine. Ainsi l'arche de Noé symbolisant l'Église. Il n'est pas davantage nécessaire qu'il y ait aliénation des sens extérieurs lorsque le prophète est éclairé par une lumière intellectuelle ou doté d'idées nouvelles. Car en nous, le jugement de l'intelligence exige pour sa perfection un retour vers les réalités sensibles qui sont à l'origine de notre connaissance ainsi qu'il a été établi dans la prima facie. Au contraire, lorsque la révélation prophétique se fait à l'aide de formes imaginatives, l'abstraction des sens est nécessaire pour que cette apparition des images ne soit pas confondue avec les réalités perçues par les sens externes. En ce cas, l'abstraction des sens peut être parfaite ou imparfaite. Elle est parfaite lorsque l'on n'a plus aucune perception sensible. Elle est imparfaite lorsque l'on continue de percevoir par les sens externes, sans toutefois discerner complètement les objets extérieurs, des apparitions imaginatives. On commence à voir un peu trouble, hein, un peu vague. Ainsi, saint Augustin écrit-il, on voit les images des corps qui sont produites dans l'âme comme on perçoit les corps en réalité. De sorte que l'on ne fait pas de différence entre un homme présent ou un homme absent, que l'on considère en imagination comme avec les yeux. Toutefois, cette aliénation des sens n'est pas, dans les prophètes, l'effet d'un désordre de nature, comme dans les possédés ou les fous, mais le résultat d'une cause ordonnée, soit naturelle, comme le sommeil, soit spirituelle, comme la véhémence de la contemplation. Ainsi, le cas de Saint-Pierre, qui, en priant dans la chambre haute, fut ravi hors de ses sens, soit divine, dans cette parole d'Ézéchiel, la main du Seigneur a reposé sur lui. Donc, vous voyez bien, vous voyez comment le don de la lumière divine pour la prophétie, peut impliquer abstraction des sens, peut très bien ne pas l'impliquer. Marthe disait qu'au début, quand la très sainte Vierge venait, quand elle était prise par Jésus, il y avait aliénation des sens. Et plus elle s'approchait du terme de sa mort, plus il y avait une présence des sens en même temps que la lumière de Dieu. Ça m'a beaucoup frappé, ça. Parce que c'est bien ce que montre saint Thomas ici. C'est que, de fait, l'abstraction des sens n'est pas du tout nécessaire. Elle est très accidentelle. Et au fond, elle provient de ce fait que notre capital de vie étant limité, si vous êtes tout entier ordonné vers un point lumineux, vos sensations seront beaucoup plus faibles. Mais c'est ce qu'on disait déjà de saint Thomas, vous savez, quand il allait chez le dentiste. Hein, alors, il avait une faculté énorme d'abstraction. Donc, il se mettait à penser quelque chose, fortement. Et à ce moment-là, pour une triple tête, on voulait dans la bouche, il sentait que rien. Moi, il le dit, c'était peut-être par vertu, tu vois. Il disait qu'il ne sentait plus rien. Parce que toute la vitalité était dans un sens. On comprend très bien ça. Toute la vitalité étant prise dans un sens, eh bien le reste tombe un peu en léthargie. Alors on comprend comment ce que Marthe disait, au début, les visions qu'elle avait avaient comme un caractère de violence par rapport au reste du corps, ce qui faisait que les sens externes étaient comme arrêtés. Tandis que progressivement, par un effet d'accoutumance, ou aussi peut-être par un effet de miséricorde de Dieu, il n'y avait pas cette coupure. Alors je crois que c'est ça que saint Thomas veut me montrer ici. Normalement, nos sens coopèrent, mais comme ici la lumière vient d'en haut, et non pas d'en bas, la lumière de l'intellect agent, vous comprenez bien, passe toujours par l'image. Par les images. Les images sont liées au sens. Alors l'intellect agent illumine nos images. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit du prophète, l'intelligence est liée aux images dans son exercice. Lorsqu'il s'agit du prophète, il est seul, il n'y a pas raison. Cette lumière prophétique éclaire l'intelligence, mais n'éclaire pas nécessairement l'image. Il y a une répercussion, nécessairement. Et les sens peuvent très bien être coupés, ils peuvent donner l'intensité de cette lumière. Alors, il peut y avoir une coupure. Ça n'empêche absolument rien à l'acte prophétique. Et en vrai, il peut y avoir l'exercice des sens, comme une certaine comme naturalité qui se fait entre l'intelligence et le domaine prophétique. Et alors à ce moment-là, on verra bien ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. On discernera. Alors, prenons tout de suite. Je ne peux pas vous difficulter. Alors, la première objection. On lit en effet dans les nombres. S'il y avait parmi vous un prophète du Seigneur, je lui apparaîtrais dans une vision ou je lui parlerais dans un songe. La glose dit au commencement du psaume, l'apparition qui se fait dans les songes et dans les visions n'est qu'apparence. Or, s'il n'y a qu'apparence là où devrait y avoir réalité, c'est qu'il s'est produit une abstraction des sens. La prophétie requiert donc toujours cette abstraction, cette aliénation des sens. On comprend très bien ce point de vue-là de ça. De comprendre comment cette lumière prophétique, étant donné son intensité, doit provoquer cette brisure. Réponse. La glose, comme le livre des nombres, parle des prophètes qui reçoivent de nouvelles formes imaginatives ou un nouvel arrangement de formes antérieurement acquises, soit pendant le sommeil, d'où le terme de son, soit pendant la veille, d'où le terme de vision. Tout simplement. Dieu peut le faire, Dieu ne peut très bien pas le faire. Il n'y a pas de loi, puisque on est en dehors. On est dans un régime préternaturel. On n'est plus dans le régime naturel. Donc si on est dans un régime préternaturel, il y a une lumière de Dieu divine qui peut agir directement sur l'intelligence, il peut y avoir cette espèce de liberté plus grande par rapport aux images. Mais il peut y avoir aussi des images nouvelles. Seconde objection. Lorsqu'une personne s'applique avec intensité à son opération, les autres puissances suspendent leur exercice. Le capital de vie en nous est limité. Par exemple, ceux qui apportent une grande attention à entendre une chose sont incapables de voir ce qui se passe devant. Faites attention quand vous conduisez une voiture, de ne pas vous laisser prendre par une musique céleste merveilleuse, et alors à ce moment-là, vous êtes suspendu, vous oubliez complètement la réalité présente. Or, c'est arrivé, ou pris par la conversation métaphysique, suspendu. Or, dans la vision prophétique, l'intelligence, par suite de l'élévation de ses pensées, s'applique avec une suprême intensité à son acte. Voilà pourquoi il semble qu'il y ait toujours abstraction des sens. Alors, réponse. Lorsque l'esprit applique son attention à saisir les réalités, des réalités absentes, qui sont cachées au sens. La véhémence de cette application produit une aliénation des sens. Mais quand l'esprit s'applique à combiner ou à juger les réalités sensibles, il ne faut pas qu'il soit abstrait des sens. C'est comment tu portes quoi l'application? Si l'application porte sur quelque chose qui est une vérité éternelle, une vérité divine, il peut y avoir abstraction. Si elle porte au contraire sur un fait, il y a un fait contingent, alors non. Et quand l'esprit s'applique à combiner ou à juger les réalités sensibles, il ne faut pas qu'il soit abstrait, disons. Alors, troisième objection. Il est impossible de se tourner à la fois de deux côtés opposés. Or, dans la vision prophétique, l'esprit est orienté vers la réalité supérieure qui l'inspire. Il ne peut donc, en même temps, se tourner vers les réalités sensibles, d'où il semble nécessaire que la révélation prophétique se passe toujours avec abstraction des sens. Une objection très simple. Alors, troisième, la réponse. Dans le prophète, le mouvement de l'esprit ne dépend pas de sa puissance propre, mais de celle d'une lumière supérieure. Il est instrument, donc il est dépendant de la lumière supérieure. Voilà pourquoi, lorsque, par une lumière supérieure, l'esprit du prophète est conduit à juger et à combiner ce qui se rapporte aux réalités sensibles, il n'y a pas aliénation des sens. Celle-ci ne se produit que quand l'esprit est surélevé pour contempler de plus haut une vérité. Ça, c'est facile. C'est tout à fait de l'application. Il n'y a pas de quoi. C'est pas impliqué dans la prophétie. La prophétie peut se faire avec les sens ou sans les sens. C'est une lumière qui vient d'en haut, une lumière supérieure. Cette lumière supérieure peut tout simplement illuminer les concepts, peut illuminer les images. On dira vision intelligible, intellectuelle. Vision imaginative, vision sensible. La prophétie peut être trois. Mais il peut très bien y avoir une séparation. Ça peut se faire. Et ce n'est pas le prophète qui commande, hein. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas le prophète qui commande. C'est la lumière prophétique qui, elle, s'arrête à ces trois niveaux. Alors, je prends la dernière objection. Alors, vous voyez, la dernière objection, c'est très curieux, c'est très rare qu'il y ait ça. Hein. C'est une chose assez particulière. Il y a une chose assez particulière. C'est le sept contrats qui va être interprété dans la dernière objection. C'est la fameuse parole de saint Paul, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alors, s'il est dit que l'esprit des prophètes leur est soumis, cela vise le discours prophétique dont parle ici l'apôtre. Car lorsque les prophètes annoncent ce qu'ils ont vu, c'est de leur propre gré, et non avec un esprit troublé comme les possédés. Ainsi que le prétendait Trichine et Montan. Mais dans la révélation prophétique elle-même, les prophètes sont bien plutôt soumis à l'esprit de prophétie, c'est-à-dire au don prophétique. C'est amusant, ça, comme chose. Hein. Le sept contrats qui est interprété en dernière objection. Comme si le sept contrats allait trop loin. Saint Thomas a dû revenir sur sa position. Mais, selon le sept contrats, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Or, cela n'aurait pas lieu si le prophète n'est pas maître de soi, abstrait qu'il serait de l'exercice de ses sens. La vision prophétique ne s'accompagne donc pas de l'aliénation des sens. Eh bien, elle peut s'accompagner de l'aliénation des sens. Voilà tout ce que donne le corps d'article. Donc il y a une espèce d'opposition, et c'est pour ça que saint Thomas revient sur l'objection. Parce que montrer que l'action prophétique est ou abstrait des sens, ou n'est pas abstrait des sens. Parce que c'est une lumière qui vient d'en haut. Donc elle peut s'arrêter quand elle veut, selon le bon plaisir de Dieu. Alors, ça, c'est une question très intéressante. Article 4. Les prophètes connaissent-ils toujours ce qu'ils prophétisent ? Parler en langue, sans comprendre. Et l'autre, à côté, comprend tout. Alors, le prophète connaît-il ce qu'il prophétise ? On lit dans Saint Jean, « Caïphe ne dit pas cela de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour le peuple, etc. » Or, Caïphe ne comprit pas ce qu'il disait. Tous ceux qui prophétisent ne connaissent donc pas ce qu'ils annoncent. C'est relativement consolant. Oui, bien. Vous pouvez être prophète sans le savoir. Dans la révélation prophétique, l'esprit du prophète est mu par l'Esprit Saint comme un instrument déficient par rapport à l'agent principal. Toujours la même chose. Hein. Le don de prophétie, c'est un don qui nous met instrument du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit pousse l'esprit des prophètes soit à comprendre, soit à annoncer, soit à faire quelque chose. Tantôt à ces trois actes ensemble, tantôt à deux d'entre eux, tantôt à un seul. Et il peut se produire, dans chacun de ces cas, qu'il y ait chez le prophète un défaut de la connaissance. Supposons tout d'abord que l'esprit du prophète soit mu pour juger ou pour saisir une vérité. Il arrive parfois qu'il saisisse cette vérité, mais sans se rendre compte qu'elle lui a été révélée par Dieu. Alors, il s'attribue ça à lui, alors qu'en réalité, ça vient à Dieu. C'est un peu ennuyeux. D'autres fois, au contraire, il s'en rencontre. De même, dans le cas d'annonces prophétiques, l'esprit du prophète tantôt comprend ce que l'Esprit Saint affirme par sa bouche, tantôt comprend ce que l'Esprit Saint affirme par sa bouche, comme David qui disait « L'Esprit du Seigneur a parlé par moi ». Tantôt, il ne saisit pas ce que l'Esprit Saint a voulu signifier par les mots qu'il prononce comme Caïphe. Enfin, il en va de même dans le cas d'actions prophétiques. Parfois, les prophètes comprennent la signification de leur acte, tel Jérémie qui cache sa ceinture dans l'Euphrate. Parfois, ils n'en ont aucune conscience. Par exemple, les soldats qui se sont partagés les vêtements du Christ. Ils ne comprirent pas. Ils n'ont pas compris ce que cela signifiait, cela pouvait préfigurer. Lors donc que quelqu'un a conscience qu'il est conduit par l'Esprit Saint, soit à juger une vérité, soit à l'exprimer par la parole ou par l'action, ceci relève en propre de la prophétie. Par contre, lorsqu'il est poussé par l'Esprit Saint, mais sans le savoir, il n'y a pas de prophétie parfaite, mais un instinct prophétique. Au surplus, il faut reconnaître que l'esprit du prophète étant, comme on l'a dit, un instrument déficient, même les vrais prophètes ne connaissent pas tout ce que l'Esprit Saint a en vue, soit par leur vision, soit par leur parole, soit même par leur action. Par là, la réponse aux difficultés est claire. Donc, vous voyez, c'est assez net dans la pensée de saint Thomas. L'Esprit Saint qui nous donne la lumière, l'Esprit Saint nous donne diversement cette lumière. Ce n'est pas toujours la même chose au point de vue prophétique. Et vous pourrez très bien ne pas avoir conscience de ce que vous dites. Il n'avez pas conscience de ce que vous dites, vous tombez dans la catégorie, si vous voulez, de l'instinct prophétique, qui n'est pas vraiment le point de vue prophétique. Le prophète doit normalement avoir conscience de ce qu'il dit. Le prophète doit normalement avoir conscience de la parole prophétique qu'il dit, sachant que c'est une parole prophétique. S'il ne le sait pas, c'est plus tout à fait le prophète. Alors on verra la fois prochaine la question 174, les divisions de prophétie.